Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute de cette émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble. Pas mal de choses à discuter. Puis on commence avec un sujet qui a dû certainement être un sujet de conversation pour vous aussi. On s'est tous demandé, si vous avez des enfants, en tout cas, vous voulez certainement demander, est-ce que j'aurais dû les avoir plus tôt? Est-ce que j'aurais dû les avoir plus tard? Trouver le bon âge pour avoir des enfants, c'est pas toujours évident. Des fois, ils arrivent comme ça sans prévenir. On l'a pas vu venir. Et on doit faire avec. Et puis, on est content. On est toujours content d'avoir des enfants. Vous me direz. Mais c'est sûr que l'âge, quand on peut le décider, et de plus en plus de couples, d'ailleurs, souhaitent choisir le moment de l'avoir. On remarque, par exemple, que chez certains trentenaires, on va préférer d'être installé. Beaucoup de gens, d'ailleurs, préfèrent être installés confortablement avec leur maison, avoir leur voiture. Des fois, on veut avoir pris le temps de voyager, d'avoir pris une coupe de brosse pour, tu sais, d'avoir vécu la vie. Puis là, on se dit, bon, là, je suis prêt d'avoir des enfants. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils se disent, non, je m'en débarrasse, j'ai fait suite. Ça m'a toujours fait rire. C'est des gens qui disent, moi, je m'en suis débarrassée jeune. Débarrassée de quoi? Ben, tu sais, les porter. C'est peut-être plus les filles qui disent ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous. Puis on a des invités fabuleux pour en discuter. Yannick Demartineau est humoriste, jeune humoriste de la série Like Moi, qui est d'ailleurs en spectacle. Il est en train de roder son premier one-man show. Merci d'être là, Yannick.
Ça fait plaisir. Merci.
Comment tu fais ça, être humoriste avec un jeune? Parce que toi, tu as eu ton fils à 18 ans.
Oui.
Et là, il a 12 ans aujourd'hui.
Exactement, oui.
Puis toi, c'était comme un « Ouh, allô, juste avant Noël, cadeau!
» Oui, effectivement. Oui, moi, ça a été un petit peu une surprise. Mais en fait, je crois que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis lancé en humour. Ça l'a un petit peu mis en perspective ma vie à ce moment-là. Et j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai tenté un peu le tout pour le tout. Et c'est drôle parce que j'ai eu la réflexion à la base que je me suis dit, moi, essayer là l'humour. Et si je suis vraiment mauvais, il ne saura jamais. il peut pas comprendre encore.
Il est trop petit.
Ouais, m'a fait de l'humour avant qu'il ait 5 ans, puis commence à faire comme papa, il fait des spectacles, mais ça fonctionne pas bien. Donc c'est ça m'a un peu poussé, mais c'est sûr c'est difficile à tout concilier, surtout à cet âge-là.
Ouais. On va revenir à ton histoire, bien sûr. Parce que tu vas nous rappeler ça depuis le début. Gilles Laporte est un historien qui est habitué de mon émission. Merci Gilles d'être là. Enseignant au Cégep du Vieux à Montréal. Deux enfants que tu as eus. À 52 ans, c'est ça?
54 ans, 54, le premier
54. Et ça a changé ta vie.
C'est évidemment.
Toi, toute la première partie de ta vie, tu la voyais sans enfant.
T'avais absolument. Même, ouais. Toute ma vie, je la voyais sans enfant. C'était la bohème. J'avais fait ce choix. Génération X oblige. La paternité, c'est franchement pas une priorité. Il y a le voyage, il y a l'aventure, il y a les amis, il y a la fête, quoi. Puis comme l'adolescence se poursuit pratiquement jusqu'aux cheveux blancs maintenant, j'envisageais pas du tout le fait d'avoir des enfants. Fait que toute ma vie a consisté à me développer un argumentaire. Pourquoi je n'en voulais pas, expliquer à souvent des conjointes ou à des copines que non, si tu te trompes de type, c'est avec moi, alors passe ton chemin, désolé.
Ah, fait que ça t'a coûté des relations?
Ah, ben absolument, ouais. Pratiquement toutes. Toutes les relations que j'ai eues durant ma vie ont été interrompues systématiquement sur ce motif, qui est légitime, qui est important.
Mais t'en voulais vraiment pas?
Absolument pas. Absolument.
Mais c'était quoi ton argumentaire?
Bon, l'argumentaire, il tient encore d'ailleurs toujours. C'est la perte de la liberté. Pur et simple, c'est la perte du temps libre, c'est la perte de la recherche du développement personnel, ce qui est tellement valorisé de nos jours, Isabelle. De toute façon, mon modèle n'a rien d'original, là. Il est très courant, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont fait le choix de pas avoir d'enfants, et c'est un mythe de croire qu'on va le regretter, pas nécessairement. En revanche, lorsque j'ai pris cette décision, là, je l'ai pris mûrement réfléchi, je l'ai pris en toute connaissance de cause.
Quand tu as voulu en avoir finalement.
Voilà,
ouais.
Voilà.
Faut dire, bon, c'est particulier, mais en même temps, il y a beaucoup de gars qui vont t'écouter, qui vont se retrouver dans ton histoire. Tu as rencontré une femme plus jeune. Là, j'entends les filles qui disent « Ben oui, c'est sûr, on sait bien. »
Immense privilège, immense honneur. Puis, donc, il faut se montrer digne. Et là-dessus, je tiens à insister. Le modèle est quand même assez établi. Une femme, un homme avec légèrement ou plus ou moins plus vieux par rapport à sa conjointe.
Et toi, t'avais quoi? T'avais 10 ans à peu près?
17 ans!
17 ans,
Oui. Mais en soi, il y a pas de j'y voyais pas ni de problème éthique ni de problème moral. La responsabilité morale que j'avais, c'est de lui laisser la possibilité d'avoir des enfants. Parce que lorsqu'un type a décidé de pas en avoir, il se retrouve devant une femme plus jeune qui peut, dans l'immédiat, sur le coup de l'amour, dire « Ça va, nous n'aurons pas d'enfants, nous serons un couple couple heureux, mais on sait, avec l'expérience, on sait que il y a cette chose qui existe qui s'appelle l'horloge biologique. Ouais. Je ne veux pas tomber dans les clichés, mais il demeure une réalité. C'est que tu ne peux pas prendre la décision pour quelqu'un de plus jeune que toi de décider qu'elle n'aura pas d'enfant.
Mmh. Fait
que
elle avait quel âge, ta
Elle avait 34 ans.
Ouais.
Alors, donc, c'était une décision très, très importante que j'ai dû prendre. J'ai d'abord dit, je ne veux pas, parce que tu n'es pas en mesure de faire le choix de ne pas avoir d'enfant. Je lui ai carrément dit ça. Mais en revanche, une fois que moi-même j'avais cheminé, j'ai dit, bon, on y va. On y va, mais c'est d'entrée de jeu.
Fait que t'as d'abord dit non.
J'allais avoir des enfants parce que cette relation-là n'avait aucun sens. Sinon, c'était immoral, profondément immoral. Et ensuite, l'argument, si je peux me permettre,
c'était,
parce que Dieu sait que j'avais un dispositif de défense, moi, pour argumenter. Mais ce qui m'a fait craquer, Isabelle, c'est lorsqu'elle me dit une chose aussi simple que, Gilles, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais en revanche, il faut reconnaître que tu es quand même pas mal plus vieux que moi. Si bien que lorsque tu ne seras plus là, dans tous les sens du terme, je ne veux pas être seul.
Et est-ce qu'elle a même été jusqu'à dire « et je veux avoir un petit peu de toi qui me reste »
Oui, ça m'a tombé là-dedans. C'était d'abord et avant tout un acte d'amour qu'elle posait envers moi. Elle faisait un acte de confiance. Elle m'accordait sa confiance puis sa fidélité. C'était quand même tout un legs qu'elle me laissait. Il fallait simplement que je m'en montre digne et que je comprenne. J'étais terrassé, Isabelle. Comment veux-tu répondre à un argument pareil? Lorsqu'on dit quelqu'un te dit « je vais toujours t'aimer, mais je veux, à la limite, ne pas être seul lorsque tu ne seras pas là parce que je veux même pas te remplacer. »
Ouais.
Ouf, ben là, évidemment, on en fait un. Et le deuxième, ben là, c'est encore plus sournois. Elle m'a simplement dit, écoute, tu es plus vieux. Je suis aussi assez vieille. Le deuxième, elle l'a eu à porte la quarantaine. Mais notre enfant, il va se retrouver assez seul tôt. Faisons-lui
elle
un petit
frère. Elle est bonne, ta blonde. Elle est comme wise, la fille. Hein?
Beaucoup de qualité.
Donc là, tu as deux enfants. De quel âge?
Alors, Marion a 5 ans et Romain 2 ans.
Wow. En veux-tu un troisième?
Écoute, ça a été quand même... Je passais quand même pas mal sur la table d'opération dans tout ça. Là, parce que le choix avait consisté
oui,
à faire
ça.
Une vasectomie d'abord,
ouais.
Puis ensuite la vasoscobie, peu importe, le rétablissement...
On appelle ça se faire rabouter.
Rabouter, voilà. Ouais. Et ensuite, ben,
non,
voilà,
mais c'est quand même quelque chose. Mais pour l'homme, c'est assez... Est-ce qu'on peut dire que c'est mineur comme opération?
Mineur, la vasectomie. Ouais. Majeur, le rétablissement.
Ah ouais.
Oui, oui. C'est quand même 2 jours d'hospitalisation et tout le reste.
Oh.
Et ensuite, lorsqu'on repasse dessus pour recouper le tuyau, c'est à nouveau...
Tu l'as refait?
Ah, oui, oui. Il faut, à la limite, là, il faut... De nos jours, la procréation est... processus qu'il faut mener avec responsabilité, respect.
Ouais,
puis, de toute façon, tout qu'on fait médicalement, c'est quand même toujours plus simple du côté masculin.
Oui, ça,
bon,
c'est
ben
ça.
Alors,
ouais.
Mais là, on en a assez.
Ouais. Bon, j'en reviens à Yannick là, qui écoutait l'histoire de Gilles avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai que beaucoup d'hommes vivent ce que Gilles Laporte a vécu, c'est-à-dire rencontre une fille plus jeune, n'a jamais eu d'enfant. Parfois, il y a déjà des enfants d'un premier mariage aussi, mais dans ton cas, il n'y en avait pas. Puis ça nous donne l'occasion aussi de parler de la différence entre être père jeune versus être père plus vieux. Des fois, d'une première union, tu as des enfants, tu as l'impression que tu n'as pas eu assez de temps pour les élever. Et quand tu arrives, ta deuxième union, tu as d'autres enfants avec lesquels tu as peut-être un rapport plus intense. Toi, tu as vécu ça complètement autrement parce que toi, tu étais quasiment un ado encore, Yannick.
Ah, ben, en fait, c'était littéralement ça, là, vraiment. Et c'est drôle parce que je me reconnais vraiment dans son discours, en fait, même à la base de par rapport à la liberté et tout, j'ai eu cette réflexion-là. Donc, moi, ça m'a totalement pris par surprise parce qu'en plus au-delà de me reconnaître dans ce discours-là, j'étais en plein à l'âge qu'on le vit vraiment là, vraiment cette liberté-là, puis on profite, puis je me voyais vraiment pas avec ces responsabilités, mais ça m'a pris par surprise. Puis en fait, moi, à la base, vraiment, c'était que je trouvais ça vraiment plus impliquant pour une femme décider de perdre un enfant, de guillemets, là, je veux dire...
De se faire avorter.
On dirait que je suis passé à côté du mot.
C'était ça, il faut le dire.
Ben oui.
On est pas aux États-Unis dans la Bible Belt, on peut le dire. C'était ta première relation de couple.
Oui, exact.
Donc, t'étais au secondaire.
Oui. Ah oui, c'est une histoire très de Gracie.
Il y a le prof à côté qui en vient juste pas, qui dit « Voyons, t'as eu un bébé quand t'étais en secondaire 5, finis tes études! »
Il n'était pas en position d'autorité. Quand même.
Ouais. Comment tu dis?
Il n'était pas en position d'autorité. Là.
Non, c'était, oui. Et donc, c'était une relation sérieuse? Parle-nous un petit peu de ce moment-là. Comment
sérieuse?
Ou c'était genre, pas protégé, oups, tu sais?
Ouais, exactement. En fait, ben c'est ça. À la base, une relation sérieuse, ben comme n'importe quel adolescent, j'y croyais, ouais. Mais avec du recul, non, vraiment pas. Là, c'est vraiment une première amourette, des premières expériences. Effectivement, on s'est pas protégé. Il y a eu de l'insouciance dans tout ça. Et au moment, c'est ça qu'elle m'a apprise qu'elle est enceinte. En fait, on n'était plus en relation. Et pour moi, c'était... Là, il est venu justement le... OK, ben écoute, si tu décides de garder l'enfant, je vais prendre mes responsabilités. Et ça a été un peu atypique comme relation parce qu'on essayait de s'occuper d'un enfant en étant nous-mêmes des...
Post-enfant un peu, ouais, encore c'est peut-être ça. Un peu enfant.
Exact, ouais. Et en plus de tout ça, pas dans une relation de couple. Donc, on a été en colocation, on a essayé de s'entraider là-dedans, mais c'est ouais.
T'étais déjà en appartement à cet âge-là ou vous avez décidé d'aller en appartement ensemble?
C'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller en appartement.
Ah, quand même. Vous avez dit, OK, on va avoir l'air de parents, mettons.
S'est dit on va l'essayer pour de vrai là
et là donc t'as l'aide de tes parents, elle a l'aide de ses parents, comment vous êtes organisé?
Moi je suis pas très près de ma famille, ça a été un peu difficile mes 18 ans en fait, j'ai connu mon père cette année-là puis c'est la même année qu'il est décédé. Ensuite de ça, entre que j'ai connu mon père et qu'il est décédé, j'ai eu mon fils qui est né, donc ça a été énormément d'épreuves très chargées émotionnellement cette année-là.
Wow! Et comment ça? J'ouvre la parenthèse. Ouais, okay. Sur, t'as pas connu ton père, donc ouais. Il avait quel âge quand il t'a eu, ton père?
Je sais pas exactement. Je pense qu'il était mi-vingtaine, début de trentaine dans ces eaux-là. Mais,
et ta mère?
Comment?
Et ta mère, ta maman?
Je lui parle, mais j'ai jamais été très près non plus d'elle. C'est un peu complexe, mon histoire familiale. Donc, c'est... Ça a été encore plus difficile pour moi.
Fait que tu t'arrangeais déjà un peu tout seul, finalement.
Je m'arrangeais seul, mais j'étais pas en terrain connu dans le concept d'une famille. Donc, c'était difficile pour moi de devenir père à cet âge-là parce que j'avais aucune idée, en fait, c'était quoi vraiment la parentalité.
Il n'y avait pas eu de modèle paternel?
Non, exact.
Uh-huh. Pas de gars autour de toi pour te montrer ce que... Même des fois, c'est pas obligé d'être le père. Ça peut être un ami, ça peut être... Maintenant, les familles sont plus éclatées. On dit éclatées, même si... des fois, ça se tient tout bien.
L'écart d'âge.
Ouais.
Par exemple, mon père est né en 1925. Ouais. Alors imagine, là, mes propres enfants, leurs grands-pères et grands-mères sont morts depuis des décennies. C'est remarquable. Donc, c'est le fait de la procréation plus tard, l'étalement, la dislocation, elle est sociale, mais aussi générationnelle.
Avais-tu mis ça dans ton argumentaire, par exemple?
C'est-à-dire, toi, l'histoire de Yannick, elle montre que de toute façon, la transmission, elle se fait de moins en moins. Les gens ont des enfants plus tard. En règle générale, puis ou bien ils ont des relations plus distendues avec leurs parents. Ce qui fait qu'on n'a plus notre mère qui vient nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand l'enfant est fesse rouge, puis qu'est-ce qu'il faut lui donner contre les notites, ces choses-là. Désormais, on utilise d'autres moyens. Là. Alors, donc, c'était pas un risque. C'est un risque, oui, c'est vrai.
C'est dommage.
Comme moi, avons moins pu compter, moi, pour des raisons générationnelles, des raisons sociales, sur la part de nos parents. Mais c'est une réalité avec laquelle on peut vivre désormais. Il y a des réseaux, il y a des connaissances, il y a des
services.
Mais
Google, c'est pas comme mamie. C'est trop, personnellement.
Il est largement devenu.
Ouais.
Écoute,
donc, Yannick, on poursuit ton histoire. Donc, ta blonde et toi, vous allez en appartement, mais vous êtes plutôt coloc. Je dis ta blonde, mais c'est comme ton ex-blonde.
Exactement.
Là, vous avez ce bébé. Qu'est-ce qu'on fait à 17-18 ans quand on a un bébé comme ça, qu'on n'a pas eu vraiment de modèle de famille cellulaire, qu'on n'a pas de conseils, comme vient de le dire Gilles autour, là, qui peuvent nous aider?
Il y a beaucoup de questions. Moi, ça a été même niveau... parce que là, on parle vraiment de OK, qu'est-ce qu'on fait dans vraiment le pratique quand il y a... Mais moi, c'est même au niveau affectif. Là, c'était tout ça que... Mais ça m'a ouvert, en fait, un nouveau monde là, que je connaissais pas.
Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu as découvert que tu avais en toi cette paternité?
Cette paternité, oui, mais même ça a été mon premier lien familial, tu sais, mon premier lien d'attachement.
Wow.
Donc pour moi, c'était c'est une histoire qui peut paraître à la base un petit peu c'est une surprise, mais au final, ça a été vraiment positif et je m'en attendais pas parce que j'avais pas été attaché biologiquement à personne au niveau affectif. Il y avait juste des gens que je connaissais par leur nom. OK, eux, c'est c'est biologiquement, ils
on font, est comme obligés.
C'est ça, ils font partie de ma famille, mais je les croise pas. Je sais juste c'est qui, je les vois pas. Je sais c'est qui mon père, mais je suis pas en contact avec lui.
T'as une sœur aussi, je pense.
Ouais, c'est ça, mais même chose. Ouais. J'ai été très loin de toute ma famille. Donc là, ça a été mon vraiment premier lien. Donc ça a été particulier pour moi. Là. J'ai découvert comme quasiment une nouvelle personne.
Je vais pas être ésotérique ce matin, mais on pourrait l'être. Là, il y a pas de loi contre ça. Mais on pourrait dire, Yannick, que la vie est bien faite. Des fois, on chiale contre la vie, puis des fois, on se dit, hey, ça a bien fait les choses.
Effectivement, ben, je pense aussi que ça, c'est une question de perception. Là. Je ne suis pas nécessairement un amateur je ne sais pas si je crois au destin, en fait, mais je crois par contre qu'avec qu'est-ce qu'on te donne, ben là, par rapport à ta perception et tout, ça peut modifier la façon que tu te sers de qu'est-ce qui arrive, parce que j'aurais pu voir totalement d'une autre manière, mais j'ai été, je pense, ouvert à cette expérience-là, et finalement, ça a été que positif, ça m'en a appris sur moi-même, et ça m'a donné beaucoup de courage, en fait, et je crois que c'est à partir de là, vraiment, comme que je disais, que ça m'a donné envie de me lancer en humour, puis de voir...
Mais malgré le fait que tu n'avais pas le lien familial d'abord, avant tout, à toi, que tu n'avais pas été élevé dans ce contexte-là, tu avais quand même ce qu'il fallait, visiblement, parce qu'on a des histoires en tête. En t'écoutant, il me vient des histoires horribles. Bon, je pense que tu es originaire de Granby, en plus.
Oui, il y a des histoires récemment
De bébés qui ont été complètement... Là, tu te rends compte que finalement, les parents l'ont eu trop jeune. Et ensuite, il y a eu des belles-mères qui sont rentrées là-dedans, des pères ou des beaux-pères. Bref, il n'y a pas qu'une histoire. Si on faisait l'archétype de l'enfant maltraité au Québec, on se rendrait compte quand même qu'il y a beaucoup de parents incompétents qui ont peut-être eu des enfants alors qu'ils n'auraient pas dû en avoir. C'est tout ça aussi. Là. Alors, toi, tu l'as à 18 ans, puis finalement, tu es un père compétent. T'sais. Aujourd'hui, ton fils a 12 ans, puis vous avez des super bons rapports.
Je crois, oui, vraiment, et aussi pour là on parle beaucoup de moi, mais juste aussi envoyer des fleurs à sa mère. Elle aussi, ça a été difficile. Elle était une année plus jeune que moi, donc moi j'avais 18 ans et elle avait 17 ans quand qu'elle l'a eu. Il a fallu mettre beaucoup de choses sur pause et vraiment chapeau à elle aussi.
Est-ce qu'elle a pu finir son secondaire 5? Est-ce qu'elle a pu le finir son secondaire?
Oui, moi j'allais finir aux adultes un petit peu plus tard. Je l'ai fini moi à 20 ans. Elle le finit dans le fond, c'est ça, c'est moi qui étais plus là le dernier 6 mois que de dans le fond que son secondaire 5 là. Puis elle a été au cégep après et tout. Moi ça a été super. Là que j'ai participé en route dans mon premier gala et tout, puis ensuite de ça j'ai fini l'école aux adultes. Mais ouais, c'est important pour moi aussi de saluer elle aussi.
Mais tu as tout à fait raison, tout à fait. Je sais pas si elle nous écoute, mais on la salue. Vous avez des bons rapports?
On a des bons rapports vu que c'était vraiment une première histoire dans nos vies à chacun. Il y a pas d'amertume dans notre relation. Si on se voit, c'est vraiment pour parler de notre garçon, pour s'assurer que tout va bien. Et aussi, d'une année à l'autre, on a vraiment eu beaucoup d'adaptation par rapport à l'horaire de l'autre, les projets et tout. Et je pense qu'on s'est ni un ni l'autre mis des bâtons dans les roues et bien au contraire, on s'est permis de faire beaucoup de choses. Elle m'a vraiment aidé dans tout ça, à bâtir ma carrière.
C'est une belle histoire. On va aller à la pause là-dessus. Okay, on a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave du tout. On est ensemble, on est bien, on a le temps. Il fait beau dehors. On parle de l'âge idéal pour avoir des enfants. D'après vous, et appelez-nous au 514-790-9850 pour nous dire ce que vous en pensez de par votre expérience ou de ce que vous estimez être le meilleur âge pour avoir des enfants. Et bien sûr, sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. J'ai hâte de vous parler. À tout de suite. On se demande quel est le meilleur âge pour avoir des enfants. On a entendu deux pères. J'aimerais bien de demander à une mère également comment elle voit les choses. Et notre invitée est en plus psychologue. Suzanne Vallière est avec nous. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
3 enfants à partir de 25 ans. Donc, est-ce que tu dirais que c'est l'âge moyen encore aujourd'hui pour avoir des enfants, Suzanne?
Oui, ben en fait, dans les recherches, là, en 2016, on disait que l'âge moyen chez les femmes, c'est 30 ans à peu près. Mais la majorité vont avoir les enfants entre 25 et 34 ans environ. Donc, c'est à peu près la moyenne là, qu'on a des enfants. Ce qui nous mène après souvent après des études. Là, hein. Alors, moi, j'ai fait un bac, j'ai fait ma maîtrise, puis ensuite, j'ai eu Gabriel en 92. Donc, j'ai vraiment suivi le processus.
Ouais. Mais, bon, on remarque quand même que les nouvelles générations... Mais c'est, dernièrement, écoute, c'est intéressant tout ce qu'on a parlé. Je trouvais qu'il y avait des jeunes couples qui avaient des bébés, mmh. tu sais, des jeunes qui ont des mmh. bébés. Tu dis, ah, est-ce que les millénarios ou même la génération qui les précède, ou qui les suit plutôt, pardon, est-ce qu'ils ont décidé d'avoir des enfants plus tôt par rapport aux X qui, eux... Comme toi et moi, là, qui les ont eus beaucoup plus, un peu plus tard. Ben, toi, tu m'as dépassé, là, tu les as eus plus jeunes que moi, mais beaucoup de X ont décidé de les avoir plus tard parce qu'on nous a tellement dit qu'on n'aurait pas de job, qu'on était bien occupés
exactement.
À s'en trouver.
Oui, exactement. C'est peut-être effectivement que ça fait une différence là, pour les générations qui nous suivent un peu de savoir justement que l'emploi est au rendez-vous. Puis peut-être moins d'importance. On nous mettait beaucoup de pression aussi pour avoir tout à peu près là, avant d'avoir l'enfant, c'est-à-dire ouais. Avoir une maison, un auto. Hein? Peut-être que nos jeunes d'aujourd'hui se posent moins ce type de questions-là, vivent peut-être plus dans le moment présent, puis on l'espère du moins, là, et qu'ils disent, ben écoute, on est prêt à être parents, puis le reste va suivre, là, tout simplement. Là, on s'en fait peut-être moins avec toute cette pression-là qu'on nous mettait auparavant. Là.
Exactement. Est-ce qu'il y a un bon âge pour avoir des enfants? Et surtout, notre question, c'est quel est le meilleur âge pour avoir des enfants?
Je crois pas qu'il y a un âge particulier pour avoir des enfants. C'est sûr que quand on a des enfants très tôt dans notre vie, là, quand on parle entre 17 et 19 ans, souvent, c'est peut-être pas un choix qui a été planifié.
Ouais.
On s'est pas projeté dans ce rôle-là auparavant parce qu'on est encore dans les études, on est encore dans la festivité aussi, souvent là, avec nos amis. Puis la majorité des gens à 18-19 ans n'ont pas vraiment d'enfants, donc on n'est pas non plus, on n'a pas de modèle alentour de nous qui nous dit « Hey, c'est un appel, là. J'aimerais ça moi aussi vivre ce que cette personne-là est en train de vivre. » Donc, c'est peut-être moins un choix. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui ont des enfants dans ce groupe d'âge-là, puis qui assument très bien leur rôle, alors qu'il y a des gens qui les auront plus tard à 40 ans avec tout ce qu'il faut, là, la maison, le salaire et tout, puis ils vont pas nécessairement être plus compétents comme parents parce que peut-être qu'encore une fois, c'était pas vraiment un choix qu'il y avait à ce moment-là, puis ils ont pris la situation quand même en main, mais ils ont pris leur responsabilité, mais c'était pas nécessairement un choix. Je pense qu'à partir du moment où tu te projettes comme parent dans ce rôle-là, que tu as le goût de le vivre, ce rôle-là, l'âge a plus ou moins d'importance.
Oui, effectivement. On a Christian qui est avec nous. Bonjour, Christian.
Bonjour, Isabelle. Merci pour ton sujet aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'âge vraiment idéal pour avoir un enfant. C'est une question d'appel, de le ressentir, un peu comme le dit votre invité. Cependant, j'observe, même dans la communauté noire, des parents qui ont eu, des gens qui ont eu des enfants un peu tard, on va dire 30 ans, 35 ans, qui sont quand même méchants envers les enfants parce qu'ils n'ont jamais connu leur vie à eux. Ils ne se sont pas accomplis pour atteindre un diplôme, obtenir un travail. Et ils ne sont pas prêts pour donner la vie à un enfant et à prendre soin d'un être humain. Ils ont simplement suivi un cursus ou bien parce que la famille a dit, écoutez, t'approches 30 ans, il faut que t'aies un enfant. Un peu comme ce standard qui plane en Amérique, qu'une femme doit avoir des enfants à partir de 25 à 30 ans.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Bon, en même temps, oui, tout à fait, merci Christian. En même temps, il y a l'horloge biologique aussi là-dedans.
Oui.
Suzanne, on pourrait rappeler que c'est sûr que pour une femme, malheureusement, puis je trouve ça malheureux, puis je trouve que c'est une injustice profonde que nous, à partir de 40, on ait de la misère à avoir des enfants. On n'arrête pas de nous le répéter en plus, là, arrêtez, on l'a compris. Hein? Alors que les gars, eux, hein, on a des exemples ad vitam aeternam de gars qui ont eu des enfants très, très vieux, même à 75 ans. Bon, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un enfant à 75 ans? Quand tu sais que tu vas peut-être mourir à 80, on pourrait aussi poser des questions là-dessus.
Oui.
Tu sais, mais bon. Alors, mais c'est vrai que
l'impact pour un père et une mère, c'est différent. Là. La mère portera cet enfant-là. Alors, au niveau biologique, là, je pense qu'il y a des enjeux qui sont différents d'un père. Par contre, je crois aussi que quand on décide de devenir père tardivement, parfois, les enjeux ne sont pas tout de suite. C'est-à-dire que si j'ai un premier enfant, par exemple, entre 45 et 50 ans comme père, je pense que ça peut peut-être très, très bien se passer dans les premières années. Mais parfois, ce que les recherches vont nous dire, ce qui va être peut-être un petit peu plus difficile pour ces pères-là, c'est quand c'est l'entrée à l'adolescence où l'enfant va beaucoup beaucoup plus confrontée. Là, on est avec une personne qui est rendue à peu près dans les 65, 70 ans, tout dépendamment à quel âge qu'on a eu notre enfant. Là, ça peut peut-être devenir un petit peu plus difficile pour ce parent-là de maintenir encore toute cette discipline-là qu'un adolescent a de besoin. Parce que faut se le dire, là, un enfant, ça prend beaucoup d'énergie, autant quand il est bébé que quand il sera adolescent. Alors, parfois, c'est peut-être un peu ça que les pères plus âgés vont trouver difficile.
Ouais. Et là, je vois mon invité Gilles Laporte qui veut à tout prix réagir, mais ça va se faire après la pause parce que nous devons aller à la pause tout de suite. J'en profite pour vous redonner notre numéro 514-790-9850. Dites-moi si, d'après vous, il y a un meilleur âge, un âge idéal pour avoir des enfants. Tout de suite. On parle de l'âge idéal pour avoir des enfants. Quel est le meilleur âge? Vous allez me dire, c'est celui où je les ai eus parce que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça. Mes invités, Yannick Demartino, humoriste, Gilles Laporte, historien. Avec nous également la psychologue Suzanne Vallière. Il y a Nancy qui m'écrit qu'elle a eu 3 enfants dans 3 décennies différentes. Ça, c'est intéressant. Un à 29, un à 33 et sa petite dernière à 41 ans. Et elle dit sincèrement, pour moi, il n'y a pas eu de différence. Nous avons Myriam avec nous. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
On vous écoute. Quel est le meilleur âge pour vous?
Moi, je pensais que ce soit une question d'âge. Là, je le sais que peut-être que ça va un peu bifurquer là, dans le débat, là, mais je pense que c'est une question de compétence parentale. Là, on voit tellement de gens, justement, ces temps-ci, avec les codes DPJ, tout ça, eux veulent des enfants, ils disent qu'ils sont prêts, ils ont la maison, ils ont l'auto, ils ont le chalet, ils ont le bateau, ils ont l'argent.
Mais ils n'ont pas de patience.
Ils savent quoi faire. Ouais. De plus en plus, on voit des enfants avec des troubles de comportement, avec des diagnostics qui sont précis. Ça a sûrement un impact aussi. Là, un parent qui pense qu'il va avoir un enfant normal, puis qui se rend compte qu'il y a un enfant avec une panoplie de diagnostics, ils ne sont pas outillés, ces gens-là, parce que dans leur monde idéal, il y avait la maison, le bateau, le chalet, la belle famille, puis là, tout d'un coup, il y a ça qui arrive. Puis ils savent pas non plus à qui demander de l'aide parce que de plus en plus les familles ne se parlent plus.
Ouais.
Et puis là, pour donner le coup de main à la maman qui aide la fille, qui aide, tu sais, avant qu'on était jeune, moi j'ai été passer mes étés chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui m'élevait quasiment là parce qu'elle aidait mes parents, elle aidait ma mère qui demandait de l'aide. On élève un enfant vraiment en famille.
Ouais. Avez-vous un enfant, vous, Myriam?
J'ai un garçon de 16 ans, je l'ai eu à 18 ans.
Oh, OK.
Je n'ai pas du tout regretté. Ça n'a pas été facile. C'est pas un enfant qui élève un enfant, c'est pas l'idéal, là, je dirais. On a eu des moments durs. J'ai été mère monoparentale depuis que mon fils a 4 ans. Fait que, tu sais, c'est des moments qui sont difficiles. Puis moi, je le vis avec un enfant qui a des diagnostics, là.
Oui.
Puis demander de l'aide, il faut enlever des petits drapeaux puis de ne pas dire, quoi faire, mais non, mais si tu ne sais pas, va demander. Là,
Myriam, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez?
Je le ferais pas pareil, honnêtement, là, puis c'est pas que je dis que j'aurais pas mon fils, mais je l'aurais pas nécessairement à 18 ans. Il faut comprendre aussi que pour être capable d'élever un enfant, c'est de l'amener plus haut que soi.
Ouais.
Il faut quand même avoir une certaine compétence, une certaine compréhension. Moi, j'étais un enfant qui avait un enfant.
Et c'était pas possible pour vous de vous faire avorter à l'époque? C'était pas une option pour vous?
Vu que j'étais enceinte, j'avais 7 mois et demi de grossesse. On parle plus d'avortement, là. C'était complètement différent. Par la suite, je me suis fait opérer. J'en voulais plus d'autres, là, parce que j'ai dit non, là, c'est assez, là. J'étais plus avec le papa. Je me suis dit, j'aurais pas deux enfants de deux pères différents, là, le week-end. Un week-end chez l'autre, je dis, moi, ma vie de famille n'a pas fonctionné, on arrête ça là.
Oui, je comprends. Merci beaucoup, Myriam. Merci bien de ce témoignage. Éric, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Oui. Bonjour à tout votre panel. Je suis dans l'auto, puis ce sujet-là me touche un peu parce que j'ai une histoire un petit peu particulière. Moi, j'ai eu mon premier enfant à 50 ans l'année passée, mais c'est par défaut un peu parce que moi, lors d'un premier mariage dans les années 90, j'ai découvert que j'étais pas fertile et tout ça, donc passé à travers ce deuil-là. Et avec ma nouvelle conjointe, en 2009, on a dit, ben garde, je pense qu'on est solide, on est en affaires ensemble, tout ça, on va avoir des enfants. Fait qu'on est passé par le processus que tout le monde connaît. Là,
l'adoption?
Fertilité, en fait. Parce que
c'est OK.
Puis ça, c'est une drôle de nuance parce que c'est quasiment comique parce que je suis aujourd'hui, je vous dirais, là, un père, c'est la plus belle affaire qui peut pas m'arriver dans la vie. C'est vraiment drôle, puis on dit tout ça quand on est parent, mais je pense que j'aurais pas été prêt avant ça. C'est vraiment drôle parce que je pense que je l'apprécie plus parce qu'on on est parti en affaires, ma femme et moi. Puis la beauté dans tout ça, c'est que l'exemple le plus concret que j'ai, c'est que mes parents à moi m'ont adopté, moi et mon frère jumeau, je suis sûr qu'ils nous écoutent, je le salue, Christian, à 46 et 47 ans. Fait que j'ai vu mon père, moi, d'un certain âge, tu sais, puis qui faisait toutes les petites choses. Puis on parle d'énergie. Moi, je suis un gars qui a beaucoup d'énergie en partant. Je vais vous dire, la nuance, c'est que en affaires, c'est une autre histoire. Il faut juste bien gérer le sommeil, mais c'est... Puis là, en plus, c'est qu'on prépare bébé 2, là. Nous autres, faut faire ça rapide, là. On n'a pas le choix.
Ah oui, mais, c'est vrai. Donc, vous aimez ça assez pour dire, OK, on remet ça.
Ben, parce que ça a été tellement long. C'est un processus qui a duré 10 ans pour plein de raisons, là. Je veux dire, tu sais, les histoires, là, tu sais, de la fertilité et tout ça. Quand j'étais jeune, on me disait, ma mère me faisait toujours peur, amène-moi pas un bébé à la maison, toi. Puis là, on pensait tout le temps que tu ferais
ça. Ah oui, quand on. Oui, oui, à l'âge de Yannick, là. Ouais, c'est ça.
On se rend compte que c'est peut-être plus dur au fur des temps, tu sais.
Ouais.
Mais c'est. Mon petit gars a 18 mois, puis une perle,
Ben, bravo, Éric, bravo. Merci beaucoup de ce beau témoignage. Merci bien. On a Réginald avec nous.
Oui, allô, ça va bien?
Oui, ça va bien. Quel âge?
Bonjour à tous.
D'après vous, c'est quoi le meilleur âge pour avoir des enfants?
Je ne sais pas s'il y a un meilleur âge, mais je peux te dire que ça change quelqu'un. T'sais? Moi, j'ai eu mon premier à 25 ans.
Ouais.
Puis mon deuxième, il va avoir 6 mois demain.
Oh, et vous avez quel âge, Réginald?
En ce moment, j'ai 31 ans. Okay. Puis moi, je vous dirais que le deuxième, si c'était de moi personnellement, je l'aurais eu plus tôt.
Mm-hmm.
Je l'aurais eu plus tôt que ça, mais moi, ce qui a toujours été ma plus grande crainte, c'était les finances.
Ouais.
Parce que élever un enfant de nos jours, c'est pas gratuit. Puis quand j'ai mis mon premier à la garderie, c'est là que j'ai dit à ma femme, non, on n'en mettra pas deux à ce prix-là à la garderie. Là.
Mm.
J'ai dit, on va attendre. Mais si c'était pas des finances, je l'aurais fait. Comme on dit, une fois que t'es dans les couches, soit dans les couches... tout en même temps, là, mais tu sais, d'avoir attendu. Parce que moi, j'ai trouvé ça décourageant. Tu sais, le premier, il est autonome, puis tout. Puis là, tu recommences au début.
Ouais, ouais.
Moi, c'est ça que j'ai trouvé tough un peu. Mais sinon, à l'âge que je l'ai eu, tu sais, j'étais pas établi financièrement, puis c'est pas pour
non, c'est ça. Et voilà. Puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là sur l'importance. Merci, Réginald, d'être établi quand même financièrement, d'être capable de subvenir aux besoins de son enfant. Là. Après, beaucoup de gens parlent de l'importance d'être responsable par rapport à tout ça. Là. Gilles, tu voulais revenir sur ce qu'a Suzanne Vallière tout à l'heure par rapport au père plus âgé.
Ben, en fait, à propos de l'âge idéal, c'est ouais. tout le temps.
Ouais.
Faisons des enfants, tout le monde y trouve son compte. Mais je veux faire l'apologie de la parentalité tardive.
Ouais.
Elle a d'immenses avantages. Le tout premier, il saute aux yeux, c'est qu'on n'a plus rien à prouver au plan professionnel.
Et qu'en théorie, du point de vue responsabilité financière, là,
ben voilà, à tout le moins, ça va moins mal. Et d'autre part, on ne traîne pas l'amertume d'avoir manqué quelque chose durant sa vie. Hein? On aurait voulu devenir vedette rock. On ne peut pas passer sa frustration sur ses enfants. Là. Je l'ai fait, tout ça. Alors, sur un point précis, à propos des pères plus âgés, je veux attirer l'attention sur le fait que moi, dans 3 ans, je suis à la retraite, Isabelle.
Ouais.
À la retraite. Mes enfants vont commencer à être scolarisés, là, regarde, avec un papa qui va traîner à la maison en journée longue, qui va être constamment dans leurs pattes. Oui, c'est vrai, je vais être un peu déphasé, mais je vais faire en sorte de demeurer à leur niveau, mais surtout, je vais être présent. Je vais être présent au moment où ils en ont le plus besoin, au début
de l'adolescence.
Arrange-toi
pour pas être trop présent, parce que tu vas avoir ados qui vont te remettre
non,
à ta place.
Ados, je vais déjà commencer à être un peu moins là. Je les verrai plus, peut-être moins dans la vingtaine, mais ils auront moins besoin de moi. En tout cas, ils vont en avoir eu au moment où ils ont besoin de moi, puis je serai plus dans leurs jambes plus tard.
Ouais, mais ça va être triste quand même.
Oui, mais à la limite, la vie a été tellement généreuse pour moi.
C'est un peu plate.
Ben, écoute, les histoires heureuses n'intéressent personne. Fait que je voulais y ajouter un petit peu des larmes.
Ouais. On a Carole qui dit « Beau sujet, j'ai eu mes enfants tôt, mariée à 17 ans, premier enfant 18, deuxième à 21, grand-mère à 38, malheureusement veuve à 39. Aujourd'hui, je fais des activités avec mes petits-enfants que je vois grandir, comme escalader le Mont-Tremblant en fin de semaine avec mon petit-fils de 20 ans. Elle est très heureuse d'avoir eu ses enfants très tôt. » Ça, c'est tôt, là. 17, 17, 18, 21, mais ça se mariait tôt. Le Québec aussi a été fait par des jeunes filles. Je veux dire, si vous lisez, ben, on a un historien avec nous. Ah, rappelle-nous, oui. Madeleine de Vachère, avec quel âge? J'avais 12 ans, je pense.
Oui, mais en règle générale, ça varie. Hein.
Il y a des modes. T'étais mariée à 14?
14 ans, on avait des mariages, mais l'âge médian, c'était 17 ans, effectivement. Puis ouais. la procréation suivait immédiatement et on faisait des enfants tout le long de sa vie de production. Là. Il demeure que le modèle, avec un père aussi plus âgé, c'est chose assez courant. On attend de l'homme qu'ils fournissent le support financier, sécurité, et donc nécessairement plus âgé, mieux établi. Et on attend de la femme qu'elle offre les meilleures chances de survie de l'enfant, donc le plus jeune possible.
Oui, voilà. Suzanne Vallière, une petite conclusion là-dessus.
Ben, écoutez, moi, je pense que la dame, tantôt, elle a bien exprimé. Là, je pense que ce qui est important, c'est dans son rôle de parent, c'est souvent d'être prêt de se projeter dans ce rôle-là. Ouais. Souvent, c'est quand ça nous prend par surprise, puis on sait pas non plus si l'enfant sera en parfaite santé ou s'il y aura des plus grands défis à relever après la naissance et tout ça, ben ça nous prend des outils, puis voilà. Surtout des facteurs de protection. Alors, aller vers les gens qui peuvent nous aider, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, pour dire j'ai besoin d'aide, pouvez-vous m'aider, parce que ce qui est primordial dans tout ça, c'est le bien-être de l'enfant.
Voilà.
Toujours.
Je rappelle la fabuleuse série de livres, justement, Les Petits Trucs de Suzanne Vallière, psychologue, parce que c'est plein de bons conseils là-dedans. Merci beaucoup, Suzanne. Je te laisse aller.
Merci.
Yannick, Gilles, vous restez là. On a encore des gens qui veulent nous témoigner de leur expérience parentale. On vous écoute tout de suite après pour la conclusion. À tout de suite. Bon, alors, à ma question, quel est le meilleur âge pour avoir des enfants? Je pense que d'un constat général, on peut dire que c'est l'âge où vous les avez, ou c'est l'âge où on peut les avoir, et puis c'est un peu ça. Il y a l'âge qui vous convient. Des fois, c'est pas idéal. On a eu divers témoignages, entre autres Myriam, qui a pas eu vraiment le choix de les avoir. Yannick de Martineau, ça a pas été forcément un choix non plus. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Et on en profite pour saluer Jolaine et Camille, 12 ans, qui nous écoutent. et qui sont donc ton ex-conjointe de l'époque. Et qui est la maman de ton petit Camille qui a 12 ans. Et Gilles Laporte, 57 ans, en couple avec une conjointe qui a 40 ans, depuis 8 ans, et qui a donc deux enfants, 2 ans et 5 ans. Donc, c'est ça, il y a autant d'histoires qu'il y a de gens qui les vivent. On a avec nous, rappelez-moi, parce que je pense que c'est Monique qui est avec nous. Monique est-elle? Oh, pardon, Vincent. Bonjour, Vincent.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben, écoutez, moi, j'ai rencontré ma conjointe il y a de cela 4 ans. Et on a décidé, moi j'avais 55 ans à l'époque, et on a décidé donc d'avoir un enfant ensemble. Donc le petit va avoir 2 ans au mois de juillet.
Wow!
Et donc, moi j'ai 2 grandes filles, des jumelles, qui ont 22 ans. Alors, je recommence les couches.
Et ça, c'est drôle, ça, d'avoir... Justement, j'en parlais tout à l'heure des familles recomposées ou des deuxièmes unions comme ça, ou des deuxièmes unions avec des grands-enfants d'une première union. Puis là, il y a 20 ans de différence. Ouais. Et c'est fascinant, ça. Comment vous vivez ça, Vincent? Ça se passe bien?
En fin de compte, il ne faut quand même pas oublier que moi, on a élevé donc 2 grandes filles. Et là, je crois que c'est un petit garçon, ce qui est complètement différent.
Ouais.
Et puis, donc, c'est pas tout à fait la même approche. Ce qu'il faut mentionner quand même, ce qui est important, c'est que à 55 ans, on a quand même l'expérience. On commet moins les erreurs que l'on a peut-être commises avec les deux premiers enfants. Et il y a également une chose, c'est que on est peut-être un petit peu plus proche parce que on vieillit et puis on
relativise aussi, on relativise beaucoup. Merci Vincent, n'est-ce pas Gilles?
Oh, parfaitement.
On a une capacité de prendre la distance, je ne sais pas si Yannick...
Ce que j'entends par contre, c'est qu'il y a peu de mémoire. On a une belle expérience, puis il y en a plusieurs, là, parfois 10-15 ans entre deux enfants. Les gens oublient. Moi, je suis allé voir mes collègues, mes amis qui ont mon âge naturellement, puis qui ont élevé leurs enfants il y a 20 ans. Ils ont totalement oublié.
C'était à l'époque?
Parfaitement. Ou comment ils avaient fait face à telle réalité. Je ne sais pas comment Yannick s'en tire, mais avoir un enfant, je crois qu'il faut tout réapprendre modestement. Il y a une expérience, mais je pense que c'est plus une maturité personnelle.
Mais les enfants ne sont pas tous pareils non plus. Tu peux être un parent de telle sorte avec un enfant, mais... Mais avec un autre enfant, tu vas être obligé d'être autre chose.
Oui, mais technique. Simplement technique. C'est savoir ça. Quoi faire, comment faire face à telle réalité. Je crois qu'il y a une hormone, notamment pour les femmes, qui fait oublier, vous savez, la fameuse douleur de l'accouchement et tout le reste. Je crois que ça fonctionne aussi pour les pères et plus généralement pour la parentalité. On oublie les mauvaises expériences, on ne garde que les bonnes et on se retrouve à reprendre à zéro à chaque fois.
Tu sais que ça s'appelle l'optimisme, ça. C'est ça. Ou le jovialisme, ça. Yannick, je veux juste avant que... Bon, c'est un super beau sujet, puis moi, je vous encourage à continuer à discuter de ça avec vos amis, avec votre famille, parce que ça nous amène finalement à parler des liens. Et les liens sont importants, puis ça nous manque des fois quand on n'en a pas. T'sais, des fois, tu peux avoir décidé de couper les liens aussi avec ta famille, c'est un autre sujet, mais les familles toxiques au Québec, il y en a, malheureusement. Yannick, je voulais juste qu'on parle au moins une minute de ton show, de tout ce que tu fais, parce que, évidemment, les gens ont sans doute reconnu ta voix et savent que tu fais partie de Like Moi, cette fameuse série qu'on adore. D'ailleurs, Gilles est un fan. là, tu es en rodage de ton one-man show. Le spectacle va être lancé officiellement en novembre.
C'est ça, oui.
Et ça a un titre particulier.
Oui, c'est les Dalmatiens sont énormes en campagne.
C'est ça. C'est des drôles de Dalmatiens.
Exact.
C'est des vaches, en fait.
C'est ça.
C'est
ça, la blague. Il y avait un autre titre, mais il était moins compréhensible. C'était les Dalmatiens sont tout petits au casino.
Ah oui, tu vois, j'aime
bien. Ah,
ça! C'était
plus difficile, c'est ça.
c'est plus dur. Tu vois, la vache Austin, on l'a comme plus près. C'est plus ça, près de nous, tu sais.
Oui.
Écoute, merci beaucoup. Puis on peut te voir, bien sûr, à tout.tv avec les prodiges avec Julien Lacroix.
Oui.
Ça se passe bien pour toi?
Ça se passe très bien. Oui. Je suis heureux, je crois.
Ben oui. Puis on a compris que c'était grâce à ton fils Camille.
Oui, la base de tout ça, oui. Effectivement, la genèse de toute cette histoire-là, c'est mon fils.
Merci beaucoup. Toi, Gilles, est-ce que tu dirais que...
Faisons des enfants, c'est la joie.
Tu sais, le gars, pendant 30 ans, il a dit qu'il n'en voulait pas, mais là, le fait d'en avoir eu, ça change quelqu'un quand même, Gilles.
Oui, et c'est une deuxième vie, voilà, littéralement. Je suis né deux fois.
Wow, c'est une super belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Dan Bigra est avec moi. Salut Dan!
Comment tu vas?
En prévision, bien sûr, de cette émission que tu animes à partir de 12h05. Pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui.
Oui, bien, on est assez chanceux. Le ministre Jolin Barrette va passer par le studio pour nous parler de son système Arima. Alors, il y a beaucoup de questions que ça soulève, évidemment. Ouais,
18 000 dossiers qui attendent
jetés aux poubelles. Alors, eux autres, ils repartent à zéro. Dans quelle priorité ils passent ça, de quelle façon, etc. On sait aussi qu'on fait venir plus d'immigrants rapidement, mais c'est une question d'affaires. C'est parce que ça prend des employés, ça prend du monde qui travaille, ça prend des travailleurs.
Toujours le débat entre l'immigration économique versus... l'immigration plus générale.
Oui, versus l'humain aussi. Et tout ça. Fait que ça soulève plein de questions. Est-ce que ces travailleurs-là qui sont choisis en fonction juste de compétences de travail vont passer en avant des autres? Est-ce qu'ils vont être réunis avec leur famille? Est-ce qu'on va les re-shooter chez eux après? C'est toutes des affaires que je vais entendre le ministre lui-même nous dire.
Ouais.
On va parler.
Il demandera s'il fait toujours son jogging tous les matins.
Oui, écoute, moi, honnêtement, là, je serais à sa place, puis ça durerait toute la nuit. J'irais faire un petit jogging, c'est certain.
Exactement.
Il faudrait juste m'installer un sac de boxe avec la face du chef de l'autre parti, puis j'irais faire
je reconnais bien le boxeur en toi.
Ah, non, mais juste un petit 5 minutes tranquille, puis là, je reviendrai, puis je serais très calme.
Il est assez calme, merci. Simon Jolin Barrette.
Il y avait beaucoup ses épaules. Ouais. C'est dossiers à lui qui ont passé sous baillon, soit dit en passant. Ouais. Mais,
tu vas parler aussi du film Grâce à Dieu qui va finalement être présenté?
Oui. Ben, ça parle beaucoup du prêtre Bernard Prenat qui a abusé des enfants sexuellement pendant des années. Et puis, il est protégé par l'Église encore. Et puis, il y avait un film qui est sorti sur lui, puis il a voulu empêcher la sortie. Ça sortira quand même.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup, Dan. On va t'écouter, bien sûr, après les nouvelles de midi. Puis nous, on revient tout de suite après ces nouvelles. Restez là, tout le monde.